Eh bien, bonjour et merci d'être si nombreux au Café littéraire qui présente l'anthologie du festival. J'aurais mauvaise grâce à ne pas en être heureuse, puisqu'évidemment, comme vous le savez, j'ai coordonné ce deuxième volume, comme je coordonnerai, c'est déjà un scoop, le troisième l'année prochaine. Ben oui. Donc, on a jugé, comme l'an dernier, que ce n'était pas tout à fait utile de faire semblant, c'est-à-dire de trouver un ami qui dirait à quel point il a trouvé l'anthologie que j'ai animée excellente. Je pensais que ce serait ridicule plus qu'autre chose et que ce n'est pas du tout le ton imaginal. Le ton imaginal, c'est la franchise et la simplicité. Donc, j'ai pensé que c'était aussi bien que l'anthologiste soit la modératrice et que finalement, elle ne parle que 5 minutes pour présenter le projet à ceux et celles qui ne le connaîtraient pas encore et que très vite, elle s'efface pour reprendre son rôle habituel et préférée, c'est-à-dire celle de modératrice qui donne la parole aux autres et qui parfois, quand ils ne veulent pas tout nous dire, essaie de leur soutirer les vérités, même parfois difficiles et douloureuses. On sait que les écrivains, c'est sensible. Je voulais aussi remercier un absent, non pas au festival, mais il est à son exposition, mais quelqu'un qui valorise le travail que nous faisons. Je rappelle que cette anthologie, elle est partie d'une idée qui était que j'avais envie de faire une anthologie de fantasy qui reflète un peu ce qu'est la fantasy d'aujourd'hui, la fantasy française d'aujourd'hui. Vous avez vu Cachor, Carré, les Abercrombie, les grands noms de la fantasy anglo-saxonne, ils sont là, ils seront là l'an prochain, ils ont leur place. Mais il y a aussi aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas dit ça il y a 15 ans, une fantasy française de très grande qualité. Et je pense que le rôle d'un festival comme le nôtre, c'est de publier les auteurs étrangers, de publier les auteurs français connus, reconnus comme Bordage, et aussi de donner à des voix nouvelles de la fantaisie française, à partir du moment où elles ont les mêmes exigences de qualité, eh bien l'occasion de toucher le public. Et l'intérêt d'une telle anthologie, je crois, c'est de vous faire découvrir des auteurs que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas acheter, même si vous avez des grands sacs, on le sait, aux Imaginales, 15 livres de 15 auteurs que vous ne connaissez pas pour les découvrir. Vous allez en prendre 1, 2, 3, au hasard des cafés, des écoutes, du contact. Mais avec une telle anthologie, vous aurez 14 textes, et 15 puisqu'il y a un couple, à la ville, pas dans la ville nécessairement, mais en tout cas à la ville, je ne poserai pas de questions là-dessus, un couple qui tout simplement a écrit un texte à deux. C'est intéressant, mais ça c'est pas le sujet de notre débat. On aura des cafés littéraires, je pense, l'an prochain aussi pour parler de l'écriture collective, parce que ça aussi c'est intéressant, on l'avait déjà fait et on le refera. Donc une anthologie qui est un partenariat tout d'abord entre les éditions Mnemos et puis le Festival des Imaginales. Tout simplement parce que on fait pas un tel festival sans le soutien, l'appui et l'amitié d'un certain nombre d'éditeurs. Et que parfois, ce soutien, cette amitié va jusqu'à nous donner de l'argent. C'est aussi le nerf de la guerre pour payer les voyages, les venues, etc. Et donc, Mnemos est un des partenaires fidèles qui, chaque année, depuis maintenant, pas loin des débuts du festival, eh bien, participe avec nous à la prise en charge d'une partie des auteurs qu'on invite de cette maison d'édition. Comme d'autres d'ailleurs sont partenaires, je citerai Mango, Orbite, je pense qu'on pourrait citer Cyros aussi, je pense qu'on pourrait aussi citer Rajo, la maison du regretté Pierre Bottero, et puis je pense qu'on pourrait ne pas en oublier trop, c'est-à-dire citer De Noël. Voilà, c'est ceux qui sont partenaires cette année, et puis quelques autres. Donc c'est un lien entre le festival et un éditeur, c'est symbolique. C'est un lien entre le festival et toute la génération de la fantaisie actuelle. Vous avez donc, vous allez retrouver dans Magiciennes et Sorciers un certain nombre d'auteurs qui sont les auteurs qui étaient présents déjà dans Roi et Capitaine. Et puis d'autres qui sont là pour la première fois. Et puis le coup de cœur du festival, il ne pouvait pas y échapper. Je l'ai arraché à son dernier livre qu'il venait à peine de terminer, en tout cas aux épreuves. Et je lui ai dit, quand on a du talent et qu'on est le coup de cœur des Imaginales, même si on est un auteur de fantastique, un auteur de thriller, on doit être tout à fait capable de raconter une histoire de fantaisie, même si c'est la première fois. Alors défi, oui, de la fantaisie épique. Et c'est donc Serge Cédric qui s'y est collé et qui finalement ouvre cette anthologie paradoxe d'une nouvelle voie de la fantaisie qui est d'habitude un auteur de fantastique. Et quand on se cale, il y a aussi des mauvais éléments dans l'anthologie, je vous en parlerai après. On n'excuse plus maintenant, mais bon, on tue. Surtout à la fantaisie, même si c'est à fleur et moucheté. Je précise que c'est un escrimeur, notre ami Laurent Gidon, donc je dis je frime, mais je ne m'y risquerai pas. Donc, Sir Cédric, c'est lui qui ouvre cette anthologie avec un texte hommage, parce qu'on n'écrit pas sans non plus renvoyer à la tradition, même quand on veut être novateur. Et ce premier texte qui ouvre l'anthologie, c'est un hommage à un grand raconteur d'histoire, à un auteur majeur de la fantaisie, j'ai nommé qui, Sir Cédric ?
Award.
Mais en fait, c'était pas, ça n'a pas été écrit comme en tant qu'hommage. C'est juste que, effectivement, quand Stéphanie m'a proposé de m'inviter au sommaire de cette nouvelle anthologie, et j'ai évidemment accepté immédiatement, le défi pour moi, c'était d'écrire donc une nouvelle de fantasy. Ce n'est pas ce que je fais habituellement, puisque mes deux derniers romans, notamment, sont vraiment dans le thriller contemporain. Et c'était donc d'autant plus intéressant pour moi de m'évader de cet univers-là fantastique dans lequel j'étais plongé depuis un an, qui est dans l'écriture de Fier et de Sang. Et donc, ce que j'ai eu envie de faire, c'était de replonger dans mes lectures d'adolescent, pour le coup, ce que je disais quand j'avais 12-13 ans, qui étaient des nouvelles de ce qu'on appelait l'heroic fantasy, la fantasy d'action, avec les aventures de Conan le Barbare, notamment, qui ont été une de mes premières portes d'entrée vers la fantasy. Parce que, surtout à l'heure actuelle, j'ai l'impression que beaucoup d'auteurs aiment bien écrire de la fantasy très intellectualisée. Et j'avais envie de revenir à ce plaisir simple de l'aventure, de la grande aventure, comme disait Howard. Donc, c'est pas un hommage en tant que tel, mais je me suis permis d'emprunter un tout petit peu son univers, notamment avec les Stygiens, enfin les ancêtres de l'Égypte à peu près. Donc c'est une antiquité mal, enfin qui est pas réellement placée dans le temps, mais c'est avant l'Antiquité, avant la Grèce antique notamment. Et j'ai eu envie de créer un personnage pas de barbare, mais en tout cas de m'éloigner du coup. Enfin, c'est à la fois un hommage et un clin d'œil, puisque Conan c'est le barbare aryen. Ça a été quand même basé comme ça. Et moi, mon personnage est un grand noir avec des tresses, tout tatoué, et un stygien en plus, qui était souvent chez Howard les méchants. Et ça devient mon personnage, mon héros dans mon aventure. Voilà, je suis parti de là. Et puis après, j'ai laissé l'écriture.
Et puis une jeune femme de la fantasy, on n'en dira pas trop non plus, qui va croiser ce personnage. Et une jeune femme qui aspire à quoi dans cette époque bizarre et reculée, à être libre.
À la liberté. C'est toujours les mêmes thématiques, que ce soit dans les romans modernes ou placés dans l'Antiquité. C'est ça, c'est la place de la femme, les mariages arrangés, le fait d'être soi-même dans un univers, pour le coup, d'homme qui décide de notre rang social.
Laurent Gidon, notre retardataire, en revanche, a rendu son texte à l'heure, donc je tiens à le dire, il n'a pas que des défauts, ce garçon.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser.
Non, c'est important d'être ferme avec les auteurs, sinon après, au bout de 2-3 ans...
Vas-y, Stéphanie, fouette-moi.
Voilà, absolument.
Parce que tous les auteurs n'ont pas rendu forcément à temps leur texte.
Donc, Laurent a rendu son texte à temps, a rendu un bon texte, sinon il ne serait pas dans l'anthologie, et il a quand même, quelques-uns dans cette anthologie, je pense aussi à Rachel Tanner, ont repris un personnage. C'était aussi en disant, mais n'hésitez pas, si vous en avez envie, à reprendre un personnage que vous utilisez dans un ou plusieurs de vos romans, auquel vous tenez, et racontez-lui une histoire pour cette anthologie. C'est ce que vous avez fait, Laurent Gidon.
Oui, je serai beaucoup moins modeste que Sir Cédric. Je vais jouer mon Sacha Guitry. Ce texte est une sorte d'hommage à moi-même. j'ai repris Jim parce que ce qui était au départ un roman unique chez Mnemos, Jim le chanceur, est devenu une sorte de projet plus large où on opérerait une sorte de travelling arrière sur un univers à partir d'histoires disjointes qu'on peut lire dans l'ordre ou dans le désordre, mais qui, d'une histoire à l'autre, donne une vision plus large de l'environnement. Donc, Jib le chanceur était déjà sorti, a trouvé un certain public, sans avoir un succès international, mais bon, a eu de bons échos, et je m'étais dit, tiens, ce personnage, il est intéressant, on peut le faire revivre, et puis surtout, on peut faire vivre ce qui se passe autour. Et je me suis appuyé sur l'invitation de Stéphanie, qui m'a beaucoup ému, parce que c'était la première fois qu'on me demandait un texte. Je suis un auteur débutant, c'était vraiment la toute première fois que j'avais pas besoin d'arriver avec mon texte en disant c'est le mieux que j'ai pu faire jusque là, est-ce qu'un éditeur peut m'aider à aller plus loin? Et donc elle m'a demandé un texte, je me suis dit voilà, je saute sur l'occasion à pieds joints. Merci Stéphanie, tu m'as fait un énorme plaisir, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette histoire. Et donc autant Jib dans Jib le chanceur ou dans l'encourseur qui vient de sortir à 35-40 ans, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que ce personnage, je vous la fais courte, mais en gros, Jib, c'est un artiste aventurier qui vit sa vie comme une trajectoire artistique, qui voudrait que chaque instant soit un instant de pure beauté, que l'ensemble soit une harmonie parfaite. Et comme bien sûr c'est pas possible, il y a des dégâts collatéraux. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui a pu faire que ce personnage en arrive à développer cet amour de la beauté? Il y a un terme navarro que j'aime beaucoup qui s'appelle osro, qui est marcher dans la beauté. C'est pas être bon, c'est pas être grand, c'est pas être fort, c'est être juste. Et comment est-ce que Jim a pu avoir cette envie de devenir juste? Il a dû avoir des expériences un peu difficiles, donc j'ai commencé à étayer son arrière-plan à partir de nouvelles. Donc cette nouvelle qui s'appelle Jim l'Encharmeur, qui utilise la thématique magiciennes et sorciers avec un faux sorcier et une fausse magicienne, je suis désolé, mais m'a permis de donner un arrière-plan et peut-être à des lecteurs qui se sont posé des questions sur pourquoi Jim était ainsi dans Jim le Chanceur pourront trouver certaines clés. Mais encore une fois, c'était un plaisir d'écrire et j'espère que ce plaisir sera partagé.
En tout cas, l'anthologiste, elle, a eu du plaisir à lire le texte et donc à l'accepter. En revanche, Eric Witzel, alors là, on tombe sur un auteur qui est un auteur de fantasy. Alors là,
j'ai eu peur sur le en revanche et après ça, par contre, c'est pas un plaisir de le recevoir.
En revanche, Eric Witzel, il m'a fallu, parce que c'est déjà une star, il m'a fallu vraiment insister, vraiment lui faire comprendre que je tenais à l'avoir, que je tenais à ce qu'il soit dans cette anthologie, parce que c'est un très bon représentant dans l'école française, je dirais, de cette fantasy d'aventure, qui s'assume comme tel, qui le revendique, qui aime ça, et en général les lecteurs l'aiment aussi. Et donc, Elamia, et puis son dernier roman, Histoire de Dragon, qu'il nous a proposé chez Bragelonne, je me suis dit, là aussi, il faut me faire comme magicienne et sorcier, fantasy d'action, oui, et bien évidemment... il va y avoir aussi une bestiole bizarre dans le texte qu'il m'a proposé, mais on va pas trop en dire. Ça fait quoi d'avoir des travails de commande? C'est pas la première fois quand même?
Non, c'est pas la première fois. Alors, bon, moi j'ai écrit des dizaines de nouvelles. En fait, j'ai commencé à écrire comme bien souvent par la nouvelle. J'en ai écrit pas mal, et puis à l'époque, parce que je ne suis plus tout jeune, il n'y avait pas des masses, il n'y avait pas d'appel à texte, ça n'existait pas, tous ces fanzines, ou en tout cas, moi, j'en avais pas du tout la connaissance. Il y avait très peu d'anthologies de fantastique, c'était plutôt des personnes connues, il y avait sans doute un réseau, j'en sais rien, mais alors moi, bon, voilà, je faisais mes trucs de mon côté, et c'est vraiment la forme avec laquelle j'ai appris l'écriture, j'ai appris le rythme, en tout cas, j'ai essayé de l'apprendre, et de manipuler des histoires sur un espace court, tenter des expériences. Bon, j'ai vraiment tout appris par ça. Et maintenant, donc il y avait une forme de, peut-être pas de facilité, mais bon, quand j'ai abordé les romans, je dis bon, alors là, c'est la montagne à gravir, ça va être super difficile. Et maintenant, c'est presque le cheminement inverse, c'est-à-dire qu'une nouvelle devient, peut-être pas une montagne à gravir, faut pas exagérer, mais ça devient vraiment quelque chose de pas évident à faire, de réussir à condenser dans un espace vraiment très court, bon, une intrigue, hein, forcément, on va d'un point A à un point Z, mais on passe du temps à aller de rebondissement en rebondissement, donc réussir à tenir ce rythme-là, puis surtout réussir à trouver des personnages suffisamment attachants pour qu'en l'espace de quelques pages, on fasse passer des émotions au lecteur. Alors ça, c'est là-dessus que je travaille le plus maintenant, depuis quelques années, sur les nouvelles, c'est essayer de ne pas chercher forcément une histoire avec une chute extraordinaire, de montrer, vous avez vu comme je suis malin, mais plutôt de... Oui, de faire parler des personnages qui seraient haut en couleur et de leur donner vie en très peu de temps. Donc ça, c'est le challenge qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne maintenant dans les nouvelles. Et donc l'action s'y prête bien parce que on n'est pas obligé. Enfin, je me sens pas obligé du coup, vu toujours à cause de cette longueur assez réduite d'une nouvelle, de créer tout un univers dans les détails, de tout préciser avec son histoire, son background, etc. Et vraiment tout de suite entrer dans le vif du sujet. Effectivement, les histoires d'aventure, j'allais dire les romans d'aventure, en l'occurrence les nouvelles d'aventure, se prêtent très bien à ce genre d'exercice. Donc ça n'est pas c'est pas forcément quelque chose d'évident à faire et qu'on fait comme ça en deux jours. En tout cas, ça prend toujours de l'énergie et du temps et de la réflexion. Voilà.
Eric Witzel, pourquoi la fantasy épique? Parce que bon, évidemment, pourquoi je vous ai proposé de faire une nouvelle, c'est parce que je sais, j'ai lu vos livres et je sais que vous écrivez de la fantasy épique, et c'était le choix que j'avais voulu pour l'anthologie, la série d'anthologie, pour le festival. On aurait pu faire de la fantasy urbaine, des choses plus, voilà, que j'aime aussi parfois, hein, c'est un autre type de fantasy, mais le choix qui était vraiment celui du départ, c'est de la fantasy d'aventure, de la fantasy épique, de la fantasy d'action, ce qui veut pas dire de la fantasy sociale, attention. Et donc, parce que parfois on dit ça, oh, c'est l'action, etc. On connaît un peu ce genre de discours. Et justement, Eric Witzel, pourquoi? Moi, je sais pourquoi j'ai fait ce choix-là, parce que je pense que ça correspond aussi au goût de beaucoup de lecteurs, que ça marche aussi bien chez les adultes que chez les jeunes lecteurs. Et que quelque part, une fois qu'on est emporté par le texte, il peut même y avoir des idées dedans. Et c'est ça aussi souvent ce que je veux faire passer dans la défense de la fantaisie que je fais aujourd'hui, d'autant plus facilement, vous le verrez, que je vous fais un aveu, je n'ai pas toujours aimé la fantaisie, ou du moins je ne la connaissais pas. Je disais les sottises que j'entends aujourd'hui dire. Parce qu'à force de les avoir entendues, je l'ai répété. Il ne faut pas oublier que j'ai quand même mal tourné. Enfin, j'ai bien tourné, mais j'ai mal commencé. J'étais en prépa, j'ai fait Hippocagne, Cagne. Et donc, toute cette littérature, on m'a expliqué que c'était vraiment nul. Et donc, j'ai fait de la science-fiction, mais la fantasy, quand même, là, c'est vraiment du bas de gamme. Comme quoi, on peut tous dire des sottises. Comme quoi, on peut tous avoir des préjugés. Et que on peut même en écrire. Donc, petite parenthèse, c'était une façon de dire, voilà pourquoi peut-être de façon un peu ferme, j'ai assumé l'idée de faire de la fantaisie épique, de prendre à rebrousse-poil les préjugés et de dire, je vais vous raconter des histoires, ou plutôt, parce que je n'en ai pas ce talent, je vais trouver les meilleurs auteurs pour vous raconter des histoires. Alors pourquoi, moi je fais, voilà l'explication, mais pourquoi Eric Witzel, quand il a commencé à faire de la fantaisie, pardonnez ma voix, a décidé de faire de la fantaisie épique?
Alors ça, c'est... En fait, j'en sais rien. Pour tout vous dire, quand je dis que j'en sais rien, c'est... Bon, ça va paraître un petit peu cliché, mais c'est presque instinctif, en fait. C'est-à-dire, c'est pas... Quand je réfléchis à une histoire, j'ai tendance à partir dans quelque chose de très élaboré, et j'ai tendance même à m'y perdre, à chercher des liens dans tous les sens, à intellectualiser ce que je vais faire et ce que j'ai envie de dire. Et puis je me rends compte qu'au bout d'un moment que je suis en train de me perdre moi-même et que c'est pas forcément très intéressant, et qu'est-ce qui vient... Et puis c'est pas très intéressant à lire, c'est pas forcément très intéressant à faire non plus. Et qu'est-ce qui vient finalement, c'est ce goût de l'aventure qui surgit et qui part au fil de la plume. Et donc, c'est pas réfléchi une fois de plus, c'est une forme de spontanéité. Et je pensais pas, c'est pas forcément ce que je lisais le plus d'ailleurs. Peut-être falloir que j'arrête de le dire d'ailleurs d'une année à l'autre. J'étais plus sur des textes de fantasy contemporain, voire même de science-fiction, et fantasy contemporain, je peux en écrire, de la SF, je ne peux pas. Voilà, ça c'est le grand mystère. Dès que je réfléchis à une histoire, d'abord, je serais porté plus vers des histoires. Finalement, non, en fait, il y a une logique. Merci, Stéphanie. Parce que je suis en train de me rendre compte que ce qui m'aurait intéressé d'écrire en SF, c'est du space opéra. Donc finalement, ce sont des choses assez épiques. Donc voilà, finalement, c'est la même démarche. Donc c'est assez spontané, c'est pas réfléchi. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que moins c'est intellectualisé, sans vouloir dire quoi que ce soit désagréable sur des auteurs qui ont une autre démarche, qui est tout aussi valable. Je pense que c'est plus facile de faire passer l'émotion que l'on porte soi déjà, mais aussi celle des personnages. Je pense que les héros, s'ils sont plongés dans une histoire qui est un peu plus brute, un peu plus basique, on enlève tout ce vernis c'est pas forcément un vernis d'ailleurs, c'est pas le terme adéquat, mais toute cette réflexion, tout ce qu'on essaie de faire passer comme message sur soi, sur la vie, sur le regard qu'on porte sur le monde, on se débarrasse de tout ça et puis on va à l'essentiel. Et je pense que ça peut vraiment rendre quelque chose intéressant. Et en tout cas, c'est intéressant à faire.
Sylvie Miller, alors j'ai la moitié de l'auteur qui est là, c'est que Sylvie Miller représente en fait un couple littéraire qu'elle, alors elle écrit seule, elle écrit aussi avec Philippe Ward, et le texte qui est dans l'anthologie est un texte coécrit, donc elle parlera aussi bien pour Philippe, Le crépuscule des maudites. Et alors, deux petites choses en préalable avant d'en lui poser la question qu'elle je tenais à lui poser, c'est d'abord de vous dire, vous devez la connaître, puisque avant de savoir qu'elle écrit maintenant depuis quelques années et de plus en plus reconnue elle-même de la fiction, elle a commencé dans ce métier comme anthologiste, traductrice, et elle a surtout, et j'y suis sensible, on devinera pourquoi, joué un rôle de découvreur de talent. Elle a eu d'ailleurs un grand prix de l'imaginaire il y a quelques années pour son travail de découverte de la science-fiction et de l'imaginaire espagnol, ibérique, et en particulier de Juan Miguel Aguilera, qui n'est pas là tout à fait par hasard. C'est d'ailleurs grâce à Sylvie que j'ai autrefois publié le premier texte traduit en français d'Aguilera. Vous voyez comme quoi des fois les choses viennent 9 ans après, les amitiés littéraires se poursuivent et se retrouvent. Et les Imaginales, c'est aussi une équipe, vous l'avez senti, et ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble. On profite pour le dire, et que Sylvie est là, fidèle au poste, et qu'à un moment donné, on aurait pu oublier aussi ses fictions. Et j'ai fait appel à elle et à Philippe, et ce qui m'a beaucoup plu, alors on peut le dire, c'est pas un secret, il n'y a pas de secret, le premier projet qu'ils m'ont proposé, je l'ai refusé. Non, le texte n'était pas écrit, mais il y avait le scénario. J'aurais dit, c'est intéressant, c'est pas dans le ton de la fantaisie épique que je veux. Et ils m'ont dit, mais on a une autre idée. Une autre idée, ça se passerait au Pays Basque. Là, j'ai tendu une première oreille. Et puis, ce serait au 17e, dans ces eaux-là. Ça m'a intéressé. Et ils m'ont commencé à me raconter leur idée. Et là, j'ai dit oui. Et c'est ce qui a donné le crépuscule des maudites. Vous voyez comment on fait une anthologie aussi. On discute, on travaille. C'est pas des textes qui m'arrivent au hasard, puis je choisis. Moi, j'ai fait le choix d'une construction. C'est-à-dire de choisir des auteurs, de choisir un thème, et de discuter avec eux parfois de leur sujet. Et ce qui est passionnant, je tiens à dire que c'est un texte à part, mais tout en s'intégrant parfaitement à l'anthologie, c'est un texte qui, et c'est pas si fréquent, Lovenbrück l'avait fait avec Gallica et la Moira, mais c'est pas si fréquent, ça commence, un certain nombre d'auteurs français utilisent notre propre histoire, et ne vont pas chercher nécessairement des mythes celtiques ou venant de l'étranger, mais vont puiser dans les racines de notre propre histoire. Pays Basque est-il notre propre histoire, en partie et en partie pas, on le sait, justement, c'est un des éléments du texte, pour que la magie, elle prenne place aussi dans l'histoire plus ou moins consciente et parfois inconnue de notre propre pays. Alors peut-être que c'est de ça que j'aimerais que vous me parliez, Sylvie Miller. Pourquoi Philippe et vous avez eu cette excellente idée de non pas vous insérer dans les pas des auteurs anglo-saxons, par exemple, mais de choisir un ancrage vraiment, sinon français, il y a des Basques qui n'aimeraient pas l'entendre, probablement, mais en tout cas un ancrage basque, qui est quand même, parfois de façon conflictuelle, en Europe, quand même une histoire de l'Europe et une histoire de la France.
Bah, tout d'abord, donc Philippe, mon co-auteur, est du sud de la France, et c'est un grand passionné de toutes les mythologies des Pyrénées, en fait. Il connaît très bien le Pays Basque, mais aussi le côté catalan, et donc il a, lui, de par son ancrage historique et familial, tout un fond auquel il a été familiarisé dès l'enfance, et qui m'a progressivement fait découvrir, et on a eu envie, à un moment donné, de commencer vraiment à puiser dans ce fond. Et donc justement, lorsque tu nous as contacté pour nous demander un texte, on s'est dit, bah tiens, oui, fantasy, pourquoi pas aller puiser là, parce qu'on se voyait mal, finalement on l'aurait sans doute pas fait très bien, ressortir une énième histoire basée sur des mythes arthuriens. On avait envie de quelque chose d'original avec un autre regard. Et aussi, on a eu une deuxième démarche qui était de mélanger en fait l'histoire et la fantaisie. Puisque là, au Pays Basque, on va bientôt fêter justement les 400 ans du massacre de Zugarramurdi, donc le massacre des maudites, où et finalement l'Inquisition est venue, et il y a eu des procès en sorcellerie et des centaines de gens qui ont été brûlés. Et c'est un événement qui a profondément marqué les Basques des deux côtés de la frontière. Donc il va y avoir tout un tas de choses qui vont se célébrer là. Et en plus, dans la mythologie basque, il y a tellement de choses complètement exotiques et complètement fantasy. Déjà, la langue par elle-même, quand on la regarde, elle est très curieuse. Et avec des tas de petites créatures qu'on a trouvées très très intéressantes à utiliser. Et à signaler aussi, c'est le seul, enfin c'est pas, oui si, c'est dans l'histoire des Basques en tout cas, à cette époque-là, ça a été un moment où la France et l'Espagne se sont unies pour lutter contre les Basques et peut-être de couper des têtes qui auraient été un peu opposantes, enfin profiter de ces procès en sorcellerie. Donc l'événement nous paraissait assez marquant pour pouvoir en faire quelque chose. Et donc on a décrit le voyage de ces deux inquisiteurs, inquisiteur français, inquisiteur espagnol, qui allaient vers justement les Basques pour organiser le massacre. Et on y a mêlé donc les créatures basques, les divinités basques, Akerbels, le dieu bouc, donc le bouc noir, une sorte de figure du diable. D'ailleurs, il y a toujours une bière basque qui s'appelle la bière Akerbels, qui est très bonne par ailleurs. Voilà. On s'est dit, et d'ailleurs, les quelques réactions de lecteurs qu'on a commencé à avoir, puis il y a des gens qui l'ont acheté, qui ont commencé à la lire, nous ont dit, bah voilà, on n'avait jamais vu ça ailleurs. C'est un fonds qui est très, très original et qui permet vraiment d'explorer. Parce que nous aussi, en France, dans les régions, on a des mythologies. On a Marie-Charlotte Delmas a fait un excellent travail là-dessus, sur les mythes français. Et ça peut être bien aussi de s'appuyer là-dessus.
On sait bien que la France a parfois des problèmes, pas hein. Beaucoup de problèmes avec son histoire récente et ancienne, et entre autres elle n'aime pas toujours rappeler comment elle a écrasé les autres cultures. On donne toujours beaucoup de leçons aux Américains sur l'extermination des Indiens, eux aujourd'hui en parlent librement, et au-delà de la repentance essayer de reconstruire une Amérique qui parle de ses peuples qu'elle a en partie détruit. Et en France c'est vrai qu'on a beaucoup de mal, et je trouve que justement la fantaisie qu'on a parfois traitée de réactionnaire bien à tort, elle est capable au contraire de se réappuyer sur ces histoires passées pour dire notre culture n'est pas que le nivellement judéo-chrétien, parce que ça quand même est un nivellement de la pensée, et non pas une pensée parmi d'autres, ce qui est la richesse des rencontres, et justement de se réapproprier au travers de la fiction ces histoires multiples de ce qui a fait notre diversité et les influences multiples qui font les personnes du 21e siècle qu'on est. Moi je trouve que c'était très riche, et en tout cas j'étais ravi de publier ce texte. Fabien Clavel, vous, c'est une autre mythologie. Alors, Fabien Clavel, d'abord, vous savez qu'il a eu le prix Imaginal 2009, c'est bien 2009, je me rappelle bien, pour La Jeunesse, hein, roman jeunesse, meilleur roman jeunesse. Donc, c'était déjà une bonne référence pour que je le sollicite pour une nouvelle. En général, les jeunes lycéens et collégiens ont un goût assez sûr quand même dans le choix de livres passionnants. Donc ça, c'était un bon point. Et puis j'avais évidemment lu Fabien Clavel. Et surtout, je savais qu'il s'était installé à l'Est, mais de façon très pacifique, à Budapest, qu'il y enseignait le français, mais qu'en apportant notre culture, il était aussi à l'écoute des cultures des autres. Et entre autres, il l'a puisé dans il y a un nombre de ses livres d'ailleurs qui puisent dans ses cultures. Et le texte qu'il a proposé, c'est justement cette culture des pays de l'Est. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Sans évidemment raconter l'histoire et révéler trop de choses sur la nouvelle.
Oui, oui. Effectivement, j'habite à Budapest. Et puis, comme c'est un pays d'accueil, ça fait 3 ans que j'y vis maintenant. Et que ça fait des années que je m'y intéresse. J'avais envie effectivement d'en parler. En plus, le projet d'anthologie est arrivé au moment où je travaillais sur un roman de l'histoire de la Hongrie de l'an 1000. Donc j'étais en pleine documentation sur les événements de l'époque et qui m'ont obligé aussi à revoir l'installation des Hongrois quelques siècles avant. Et en plus... j'aime bien parler de l'Europe. Enfin, moi, mes histoires se situent toujours en Europe. Parce que justement, je trouve qu'il y a une base culturelle intéressante. Et avec l'élargissement européen, donc je suis allé chercher plus loin que le Pays basque, avec la Hongrie. Et donc, ça permettait donc de raconter. Donc, moi, ça se situe en 896. C'est les Hongrois qui débarquent de l'Est, de très loin, on ne sait pas exactement d'où. Qui ont été chassés par d'autres tribus nomades encore plus sauvages qu'eux, parce que les Hongrois auront une réputation assez terrible. Et donc une partie de la population est massacrée, et donc ils se réfugient à l'ouest, et ils débarquent dans le bassin des Carpates. Et j'ai utilisé ce moment, cette arrivée, pour raconter l'affrontement de deux magies. C'est-à-dire qu'en gros, les magiciens sont envoyés en éclaireur pour se taper dessus. Et donc c'était cet affrontement qui m'intéressait de raconter. Je reviens justement à ce qu'on disait par rapport à la nouvelle de Sylvie Miller et de son co-auteur. Il y a aussi des implications politiques, effectivement, puisque la Hongrie connaît une... Alors excusez-moi, ça fait très sérieux, hein, je suis désolé. La Hongrie connaît des difficultés avec son histoire aussi, hein. Il n'y a pas qu'en France. Et notamment, vous avez dû en entendre parler, parce qu'on parle de la Hongrie que quand il y a des problèmes. On a remarqué, donc il y a eu des émeutes il y a 2 ans. Sinon, la vie est normale là-bas, hein. Vous pouvez y aller, le tourisme est florissant, et j'ai pas d'action dans le tourisme. Donc je vous le dis en toute gratuité. Et donc vous savez que là, il y a un parti d'extrême droite qui est passé aux élections, qui va rentrer au Parlement, qui sont effectivement d'inspiration, même s'ils s'en cachent, à moitié néo-nazi, donc extrêmement sympathique, hein. comme vous pouvez vous en douter. D'ailleurs, il déteste les Français aussi, en particulier. Je vous explique après pourquoi. Et donc, ils ont un rapport difficile pardon, avec leur histoire, et notamment, cette installation des Hongrois fait partie de leur mythe politique. L'arrivée d'Arpad, qui est le fondateur de leur dynastie, c'est vraiment la référence absolue, et notamment le drapeau d'Arpad, si vous avez vu les informations, c'est l'alternance de rayures rouges et blanches, c'est leur drapeau de référence qui a été utilisé notamment par les croix fléchées, c'est-à-dire les nazis hongrois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez, que des gars sympas. Et donc ça veut dire que cette histoire, qui a maintenant plus de 1000 ans, elle est toujours prégnante en Hongrie, et d'autant plus prégnante que cette année, on va fêter donc les 90 ans, si je ne m'abuse, du traité de Trianon, donc qui a été signé en France en 1920, après la Première Guerre mondiale, cette fois-ci. Tout le monde arrive à suivre, c'est bon, je suis pas trop... Cette année-là, en fait, donc la Hongrie a été complètement découpée en petits morceaux parce que elle était du côté des vaincus et qu'en plus, il venait d'y avoir une révolution communiste qui a fait peur à tout le monde. Et donc, ils sont empressés de hacher vraiment la Hongrie. La Hongrie a été réduite à 2/3 de son territoire. Et les frontières de la Hongrie, à l'époque, étaient encore celles du royaume hongrois de l'an 1000, qui a été établi dans le roman que j'écrivais à ce moment-là. Ce qui fait que les références, toutes ces références-là sont vraiment extrêmement importantes. Et donc comme ça a été signé en France, sous l'inspiration de Clémenceau en partie, donc les Français sont absolument détestés par une partie de la population. Donc allez en Hongrie, mais ne dites pas que vous êtes Français. Il y a une technique qui marche très bien, c'est dire qu'on est Belge. Il y a beaucoup de Belges en Hongrie, beaucoup plus qu'on ne croirait. Hein. Donc c'est le conseil que je vous donne. Voilà.
On a des magiciennes, on a des sorciers, des sorcières et des magiciens. Quand vous avez eu le thème, par exemple, Eric Witzel, comment vous avez choisi plutôt magicienne, plutôt sorcier, au hasard, c'était pas important, ça dépendait de votre personnage, ça s'est fait comment? Parce qu'on pouvait le comprendre, il faut des magiciennes et il faut des sorciers, ou il faut des magiciennes ou des sorciers, ou pourquoi pas des magiciens et des sorcières. Je n'ai quand même pas intitulé magicien et sorcier par hasard. Sorcière, c'est toujours un peu péjoratif. Magicienne, c'est plus ambigu, ça peut avoir un côté aussi de femme puissante, comme celle qu'il y a sur la couverture. Vous avez bien compris, et les auteurs ont bien compris le message, vu les textes qui, sans être des textes démonstratifs, on déteste ça, curieusement, parlent, y compris dans leurs textes, surtout les garçons, ça m'a beaucoup frappé, beaucoup parlent de liberté et d'oppression des femmes, et en tout cas valorisent les femmes. Finalement, il y a peut-être des notes d'espoir dans la littérature.
Alors, une fois de plus, je ne sais pas trop. Je suis en train de lire le cycle du Régant de David Yemel. Il y a une sorcière dans le village du jeune héros à ce moment-là. Et la sorcière est cette femme assez jeune, mais qui est donc dotée de pouvoirs extraordinaires. Elle vit seule, elle ne peut pas avoir d'amant, elle ne peut pas avoir de vie affective, elle ne peut pas avoir de vie familiale, elle est vraiment ostracisée. Tout le monde a besoin d'elle, et effectivement, voilà, c'est juste pour dire, rejoindre ce que tu dis, effectivement, la sorcière, elle est très rapidement connotée comme quelqu'un d'inquiétant. Moi, le choix, je l'ai fait, comme bien souvent, je défriche, je cherche des idées, et puis en fait, rien ne fonctionne, et puis d'un seul coup, il y a un déclic, et puis ça marche. Donc, c'est tu t'en souviens, la première phrase, on l'a décalée plus tard dans le récit, mais c'était une présentation, une description du personnage qui s'est imposée d'elle-même. Donc voilà, en fait, c'est un magicien ou un sorcier, dans ces cas-là, je ne sais jamais trop. Et ça me pose éventuellement des problèmes d'ailleurs quand j'écris mes romans. Je sais pas trop, c'est un magicien, c'est un sorcier. Bon, moi je fais pas trop la distinction. Pour l'instant, je cherche pas trop à la faire parce que je m'inscris pas trop une fois de plus dans le. Enfin, plus maintenant, je l'ai fait avec Elamia, mais dans une recherche d'un système élaboré de magie, d'univers, etc. Là, c'est vraiment le personnage est imposé plutôt qu'un genre ou quoi que ce soit. C'est voilà. Et en passant par cette phrase, par cette présentation qu'on a décalée un petit peu après dans le cours du récit, tout simplement.
Et vous, Sylvie Miller?
Alors, nous, chez nous, on s'est, avec Philippe, on s'est pas mal inspiré de la tradition basque, parce que nous, pour nous, la magicienne, justement, c'était vraiment le personnage féminin, parce que chez les Basques, la femme, c'est elle qui est porteuse de la transmission des valeurs, qui est porteuse de l'identité. Dans la société basque, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, les femmes ont toujours été les égales des hommes. Elles couraient dans les montagnes, elles avaient les cheveux longs, elles dansaient. Lorsqu'il y a eu les premiers prêtres qui sont venus à une époque où au Moyen-Âge on séparait les femmes des hommes, etc., les femmes assistaient à l'Eucharistie, participaient à la messe au Pays Basque, ce qui a beaucoup choqué les inquisiteurs quand ils sont arrivés avec une vision beaucoup plus réduite de l'Église. Et les femmes au Pays Basque étaient notamment porteuses du culte de la déesse Amaya, la déesse mère, et donc il y avait beaucoup de rituels qui se déroulaient dans des grottes. Les femmes aussi étaient les guérisseuses, et donc pour nous très naturellement il nous a semblé logique que les femmes soient les magiciennes, avec justement en étant porteuses de cette magie ancestrale, un petit peu de ce pouvoir et de ce lien avec la nature. Le sorcier a pris chez nous la forme du méchant, donc quelqu'un qui était beaucoup plus ancré dans la tradition chrétienne, le diable, les rôles sont, je pense, dans notre nouvelle se voient assez bien.
Cher Cédric, parce que ouais, c'est un sorcier, oui. Mais c'est un sorcier. Moi, c'est un peu particulier quand même, ce sorcier. C'est lié à une histoire.
Oui. Que dire? Non, en fait, moi, j'ai fait pour écrire mon texte, j'ai fait comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que j'ai laissé les personnages se créer d'eux-mêmes, sans savoir réellement où j'allais. Et du coup, on retrouve pas vraiment un sorcier, mais plusieurs dans mon histoire, dont un chaman qui est réellement au cœur de l'histoire. Mais c'est vrai que je suis vraiment parti d'une image sans savoir encore comment j'allais développer la chose, donc d'un homme dans une cage noire. À l'entrée d'un canyon, donc avec un petit peu l'image des westerns aussi, du convoi qui va s'engager dans le canyon, et cette personne qui essaie de, enfin qui est relativement calme en plus, et qui a beaucoup de recul, et qui dit qui annonce aux voyageurs, si jamais vous rentrez si vous vous engagez dans ce coupe-gorge, aucun d'entre vous n'y survivra. Et bien entendu, ces hommes ne l'écoutent pas. La seule personne qui non seulement l'écoute, mais en plus qui lui vient en aide concrètement, c'est une femme. Étonnamment, qui est en plus dans une situation assez particulière, puisqu'elle va être, elle est en sous-convoi pour être mariée. Donc, et je suis parti de là, en plaçant l'histoire dans une antiquité qui me plaisait bien, qui était un petit peu inspirée par celle de Ward, comme on l'a dit, et où naturellement, en fait, donc on est juste avant l'antiquité, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a l'Hadès, il y a la proximité du Panthéon, et le monde des dieux et le monde des hommes sont encore relativement proches. Et à partir de là, bon, le fil d'Ariane s'est déroulé tout doucement. Mais du coup, il y a eu. Je peux pas dire s'il y a. Comment dire? J'ai pas choisi, en fait, quand j'ai commencé à écrire. Disons qu'il y a eu un chaman, il y a eu un nécromant, la magie s'est installée dans cet univers-là, petit à petit, et apparaît au fil de la nouvelle. En tout cas, ce qui est amusant pour cette expérience-là d'écriture en ce qui me concerne, c'est que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma première nouvelle de fantasy concrètement que j'ai écrite, pour en plus dans un but précis. Je me suis rendu compte, le plaisir était tel d'écriture, hein, qu'au bout d'une vingtaine de pages, je me suis rendu compte que j'étais en train de commencer à écrire un véritable roman. Et il a fallu que je creuse la tête pour voir comment j'allais le finir plutôt que prévu, puisque je développais petit à petit, où les personnages se développaient tout seuls, avec un passé, avec une personnalité forte, avec des quêtes personnelles, des problématiques personnelles. Et du coup, j'aurais pu réellement continuer à écrire cette histoire-là sur 200 pages sans problème. Donc j'ai trouvé une petite parade, puisque forcément c'est une nouvelle d'une trentaine de pages, mais effectivement, si j'avais laissé les personnages vivre réellement par eux-mêmes, j'aurais pu en faire 200.
Il vous a entendu, hein, il coupera pas, il va devoir nous l'écrire.
Ça arrivera peut-être un jour.
Laurent Gidon, vous avez abordé, alors on me l'expliquait tout à l'heure, vous avez pensé que c'était intéressant, on était d'accord pour que vous réutilisiez votre personnage, mais vous l'avez confronté à un niveau différent, c'est-à-dire entre celui qui perçoit comme magique, ce qui peut être en fait une technique.
Oui, je crois qu'il y a une citation assez célèbre d'Arthur C. Clarke qui dit que toute science suffisamment ou technologie suffisamment avancée est perçue comme de la magie. Mais je vais arrêter les références parce que là, je suis confié dans une modestie pétrifiante quand je vois la richesse de références et de travail qu'ont accompli mes collègues de l'anthologie, alors que moi, j'ai juste écrit un texte pour m'amuser. Bravo. Franchement,
ce qui compte pour le lecteur, c'est que quelle que soit la façon d'y arriver, les textes sont aussi bons.
Donc comment je m'y suis pris? Tout à l'heure tu as dit que on se tutoie maintenant. Oui. Tu as dit que j'avais rendu mon texte à l'heure. Non, c'est pas vrai, j'ai pas rendu mon texte à l'heure, je l'ai rendu en avance, et je me rappelle mot pour mot le mail que je t'avais mis en disant voilà le texte que j'ai envie de te proposer, si jamais il te convient pas, j'ai encore le temps de t'écrire autre chose. Et c'était uniquement pour ça que je m'étais dépêché, en me disant je suis tellement pas sûr de moi que si jamais ça lui plaît pas, il me reste 2 mois pour changer mon fusil d'épaule et écrire autre chose. Et c'était pas de la fausse modestie, c'était vraiment de le fait que, en gros, parfois on me demande pourquoi j'écris, et je dis c'est la mauvaise question, c'est pour qui. Et ce jour-là, j'écrivais pour Stéphanie. Et si Stéphanie n'avait pas aimé, c'est pas que le texte était mauvais, c'est qu'il fallait que j'écrive autre chose. Et ça me paraissait naturel, normal, j'écrivais pour elle. Donc ce qui s'est passé pour cette écriture là, c'était assez simple. C'est comme ce qui s'est passé pour le premier Jib. Dans ma modestie pétrifiante, je me suis dit je suis Jack Vance, qu'est-ce que j'écris? C'est simple, non? C'est à la portée de tout le monde.
La référence n'est pas absurde du tout, c'est vraiment chatoyant, histoire d'aventure. Et c'est vrai que la référence, le lecteur qui ne connaît pas parfaitement l'histoire de la fantasy ne le verra peut-être pas, mais je pense qu'en effet on est dans ce type d'univers chatoyant qui s'assume comme un parfait récit d'aventure. Mais quand même, hein, il y a quand même derrière, je ne peux pas révéler parce que là on en dirait trop, il n'y aurait plus la surprise finale. Ça révèle des choses pour ceux qui ont lu quand même un peu les premiers romans, c'est-à-dire ça donne un petit éclairage, un arrière-plan du monde dans lequel ces personnages...
On est tout à fait dans le cadre de ce travelling arrière qui élargit ce qui peut rentrer dans le cadre. Mais par rapport à d'autres approches de la fantasy épique, il y a quelque chose aussi dont je n'ai pas voulu faire passer de message ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui est évident, c'est que je ne peux pas écrire des scènes violentes juste pour relancer l'intérêt du lecteur, parce que je n'aime pas ça. Je l'aime pas quand je les lis, je l'aime pas quand je les vois à la télé ou au cinéma. Donc même si c'est Jib, même si c'est Jack Vance qui l'a écrit, je l'ai fait que signer, il y a un truc certain, c'est que ce texte, comme tous les autres textes, ne va pas à l'encontre de mes convictions personnelles, qui sont que on peut vivre ensemble en se frottant et que ce soit doux sans que ça fasse des étincelles, mais aussi on peut avoir des ambitions très élevées et se répandre lamentablement parce qu'on n'a pas fait attention aux conséquences de ce qu'on fait. Donc c'est cette ambivalence et cette voie très étroite sur laquelle avance Jib, et qui va le conduire aux pires catastrophes dans certains romans, mais parfois aussi le conduire à faire des choses que lui seul pouvait faire pour sauver une situation. Et dans la plupart des cas, et essentiellement dans cette nouvelle, il est une sorte de témoin parallèle et d'acteur désolé de choses qu'il dépasse.
Est-ce que finalement, face à la vie, on n'est pas parfois les acteurs désolés de choses qu'il dépasse? Mais heureusement, il y a aussi de la magie et de la passion qu'on y met, ce qui nous permet de nous retrouver, de vivre ensemble. Et puis c'est peut-être ça aussi l'ambition des Imaginales. En tout cas, merci à nos auteurs, merci à tous ceux qui n'ont pas pu être là parce qu'on ne pouvait pas mettre 14 auteurs sur la tribune. Merci à tous ceux qui ont fait l'anthologie. Et puis surtout, merci à vous qui allez la lire. À bientôt. Évidemment, les auteurs vont dédicacer immédiatement.